Je vais ouvrir la Bible avec vous maintenant dans la lettre aux Hébreux. Vous avez vu ça dans le Quad 9, avec ce petit verset bien connu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne sais pas si vous savez que c'est le verset qui est au fronton du Temple Saint-Étienne. Qui le savait? Écrit en allemand gothique. Bon, Marie-Ève. Une personne seulement? Eh bien, bravo Marie-Ève. Tu as droit à une visite gratuite du Temple Saint-Étienne. C'est écrit en allemand et en gothique au-dessus de la porte d'entrée du Temple Saint-Étienne. Ils ont une bonne idée, nos prédécesseurs, bâtisseurs de ce temple au siècle, pas dernier mais avant-dernier, au 19e, de mettre ce verset. Ceci dit, ce verset s'inscrit dans un développement dont j'aimerais parler plus largement que juste ce verset ce matin. Alors, nous l'avons vu ce matin dans le psaume 104, 102, merci, on ne va pas toujours bien. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est contre? On a des jours avec et des jours sans, comme dit l'expression qu'on connaît bien. On a des coups de mou, on a des creux de vagues, on a des passages à vide. Alors, il y en a des expressions pour décrire les moments où, ces moments-là. J'ai certainement oublié plusieurs. Notre foi, en tant que chrétienne et chrétien, notre foi doit intégrer ces choses-là. Notre foi n'est pas faite pour que nous prétendions aller toujours bien, le sourire toujours gravé sur le visage, sans problème, le ciel bleu. Enfin, le ciel bleu, en ce moment, on n'a rien qui est quelques nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Être chrétien, ce n'est pas aller bien tout le temps, comme de l'inoxydable. Vous avez cette revue pour enfants que j'ai lue moi-même lorsque j'étais enfant, sachant qu'on l'est tous toujours un peu. Il s'appelle « Toujours joyeux », vous la connaissez. Mais non, je ne suis pas toujours joyeux, moi. C'est quoi cette revue? Il y a des moments où on est triste, on pleure. Notre sœur pleure, le décès de sa maman. Et nous avons tous des épreuves qui nous font pleurer. On ne peut pas être toujours joyeux. C'est quand ça va mal qu'il nous faut faire agir notre foi de chrétienne et de chrétien, pas seulement quand ça va bien. C'est pas une éclipse de foi, c'est pas un manque, mince, j'ai loupé quelque chose, c'est normal. Et c'est à ce moment-là que nous devons aller puiser les forces là où elles se trouvent. Il y a une expression au début de ce texte, alors un peu long pour une fois, un peu long, que j'aimerais parcourir avec vous, on lira quelques extraits choisis, mais je vous invite à tout lire. La lettre aux Hébreux, comme son nom l'indique, s'adresse... Voilà, s'il y en a qui écoutent, aux Hébreux. Et il y a l'arrière-plan du judaïsme, des pratiques du temple, qui est très très présent et qui est vraiment très très présent dans ces exhortations pratiques. Alors, pour moi, c'était un peu compliqué de savoir quoi choisir sans trahir ce long texte. Mais ce que j'aime bien, c'est le verset 12 du chapitre 12. Les mains qui retombent, les genoux qui flageolent. Verset 12 du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. « Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. » Voyez, on est dans notre sujet avec ce texte. C'est dans ce texte que tout à l'heure viendra Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ça commence avec les genoux qui flageolent et les bras ballants. Alors je vais continuer la lecture. « Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui flageolent. » Préparez pour vos pieds des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne se torde pas davantage, mais plutôt guérisse. Et puis ensuite, il y a donc, en fait c'est la partie d'exhortation de la lettre aux Hébreux, et qui va jusqu'à la fin de la lettre. Cette fin de lettre, ces exhortations pratiques, donnent toute une série de lignes de vie, de choix de vie, de chemins à suivre, de marches à suivre, pour éviter la fatigue et les faux pas. Ce que je vous propose, c'est une lecture un petit peu récréative de ce texte un peu sévère, avec une image. Alors j'aurais pu l'exploiter, mais bon, vous l'exploiterez avec moi. C'est l'image de la marche. Là, il est question d'une piste droite, ou d'une bonne piste, suivant les traductions. Et moi, je vous propose d'être de bonnes marcheuses et de bons marcheurs sur la piste qui nous est proposée. Dieu ne nous promet pas des chemins aplatis. Oh, ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Il s'appelle Gilles, hein, il est Très bien. Dieu ne nous promet pas des, je vais le poser là, des chemins aplanis, des chemins sans embûches. Tous ceux et celles qui ont fait de la randonnée, on est dans des régions montagneuses, ça monte, ça descend, il y a des rochers, il y a des obstacles, parfois des dangers. Dieu ne nous promet pas un chemin facile. Nos vies connaissent, comme nous l'avons dit et redit ce matin, des moments difficiles, des moments plus faciles, tendus ou détendus, heureux ou malheureux, agréables ou désagréables. L'important est, comme sur n'importe quel sentier, de bien y marcher. Alors je vous propose, avec ce texte, en suivant ce texte, 5 trucs pour bien marcher. Se nourrir et s'hydrater. Plus simplement, boire et manger. Être bien équipé. Deuxièmement, être bien équipé, notamment de bonnes chaussures, mais aussi un bon sac. Troisièmement, suivre le guide. Écoutez ce qu'il dit. Quatrièmement, avoir une bonne manière de marcher, une bonne démarche, ne pas marcher les pieds en dedans. Et cinquièmement, faire attention, être vigilant. Il y a des fausses pistes, il y a des obstacles peut-être qu'on ne verrait pas. Ça rappellera un petit souvenir sur le chemin de Compostelle à Henriette à jour. Tu vois ce que je veux dire? Vous lui demanderez à la fin du culte. Premièrement, boire et manger. Alors, c'est un résumé des versets 14 à 17. Quand on marche, il faut boire et manger. S'il fait chaud, il faut partir pour la journée avec 2, 3, 4, 5 litres d'eau, suivant la température. Il faut pouvoir manger des fruits, des raisins secs, des choses nourrissantes, énergétiques. Il faut faire attention à ne pas manger n'importe quoi sur le chemin. Si on rencontre un arbre avec des baies, peut-être elles sont belles, on les mange et en fait ça nous provoque un malaise ou des difficultés. Ce que ce texte dit, c'est que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous avez ça au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà ce que nous avons à manger pour tenir bon sur le chemin et à boire. Manger et boire la grâce de Dieu. Et qu'aucune racine d'amertume en produisant des rejetons ne cause de perturbation et qu'une multitude n'en soit souillée. Reconnaissons, ayons de la reconnaissance pour Dieu, pour son pardon, pour sa grâce sur nous. Ayons conscience de notre importance aux yeux de Dieu, aux yeux du Dieu de grâce. Que personne ne se prive du regard bienveillant de ce Dieu de grâce sur lui, sur elle. C'est important de ne jamais rester abattu, mais de se remettre à marcher quand on a chuté, quand on a péché. Car Dieu nous redonne une chance à chaque fois. Au groupe biblique œcuménique, vendredi, c'était ici, nous avons parlé de cet épisode du veau d'or dans le désert. Les Israélites avaient de l'impatience parce que Moïse ne redescendait pas du Sinaï et ils ont fini par se fabriquer une statuette pour l'adorer, alors que ce n'était vraiment pas ça qu'il fallait faire pour adorer le vrai Dieu. Quand Moïse est redescendu, ça s'est très mal passé. Il y a eu des morts, il y a eu de la violence, il y a eu de la tristesse. Et puis il y a eu aussi du repentir. Et Dieu a redonné une chance aux Israélites. Il a redemandé à Moïse de remonter sur la montagne. Il a fait de nouvelles tables alors que les anciennes avaient été cassées par la colère de Moïse. Dieu a redonné une chance à ce peuple. Il a redonné ses commandements. Tout est reparti. Et après ce nouveau séjour, entre guillemets, de plus d'un mois dans la montagne, là le peuple s'est mis à respecter le sabbat et à construire le tabernacle. Ce récit nous montre cette deuxième chance que Dieu nous donne à chaque fois. Alors peut-être dans ma vie, c'est pas la deuxième, hein, c'est la 3000e que Dieu me donne. Dieu ne sait pas compter, et heureusement pour moi. Bien sûr, Dieu sait compter, mais Dieu ne compte pas, et heureusement pour moi. Heureusement pour nous tous, que Dieu, à chaque fois qu'on est tombé, nous redonne une chance. Alors que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il s'en nourrisse, qu'il s'en abreuve. Quand on est découragé, souvenons-nous, allez, Dieu me fait grâce. Dieu me pardonne. Je vais aller devant lui, je vais lui dire, Seigneur, là j'ai pas été bon. Là je t'ai oublié. Là j'ai mal agi, là je me suis mal comporté, là j'ai mal parlé. Alors je te demande pardon et redonne-moi une deuxième chance, une nouvelle chance. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est utile de faire agir cette grâce que Dieu a pour moi dans mes relations avec les autres aussi. Souvenez-vous de la parabole du serviteur, on l'appelle la parabole du serviteur impitoyable, grandement pardonné par, sa dette a été remise par son maître, une énorme dette, et lui, il étrangle son copain parce qu'il avait une toute petite dette que son copain lui devait. L'histoire nous dit que si Dieu te fait grâce, toi tu fais grâce aux autres aussi. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne prive les autres de la grâce de Dieu. Verset 14, poursuivez la paix avec tous, c'est dans cette idée. Poursuivre, c'est un verbe très actif, c'est un effort. Cherchez la bonne entente, aimez les autres, les écouter, aller vers eux, être compréhensif, patient. Je m'amuse souvent de l'esprit critique que nous avons en France, où je suis parfois lassé et j'éteins la radio quand il y a les nouvelles, parce que c'est souvent, on fait polémique. Tel acte fait polémique. J'éternue, ça fait polémique. C'est lassant au bout d'un moment d'avoir toujours cet esprit critique dans notre culture. Nous avons un des plus beaux pays du monde. Je sais, c'est un sujet à polémique. Mais quand même, on est dans un pays où il y a des milliers de gens qui viennent pour espérer avoir une vie meilleure. C'est pas rien quand même. Et nous, on critique. Alors, il y a des choses à critiquer, certes, mais il y a tellement de belles choses qu'on tait trop souvent. Dans l'Église, faut-il qu'il y ait un esprit critique comme celui que je critique ? Non. Quand on a des choses à dire, on les dit. Il ne s'agit pas d'être silencieux quand il y a quelque chose à dire. Il s'agit d'avoir un esprit positif. D'avoir d'abord ce qui construit aux lèvres. D'avoir un regard bienveillant sur les autres. Et puis ensuite, il est question de la consécration ou de la sanctification, suivant les traductions, toujours au verset 14. Ça veut dire se donner à Dieu, lui consacrer du temps, des forces, des moyens, et laisser de côté ce qui salit, ce qui abîme, ce qui embarrasse la marche, ce qui remplit sans nourrir. Satisfaction, la suite du récit le dit, enfin du récit du texte le dit, satisfaction aveugle de nos appétits les plus vils. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors tu es découragé ? T'as le droit. Alors mange, bois la grâce de Dieu. On continue ? Maintenant on va parler équipement. Lorsque nous sommes allés faire le chemin de Compostelle, je ne vais pas faire de la pub pour la Fripp Fabrique, mais enfin, j'ai acheté à la Fripp Fabrique une paire de chaussures à 2 euros, je me souviens du prix. Quand je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais des ampoules comme c'est pas possible. J'ai éclairé la ville entière avec toutes les ampoules que j'avais aux pieds. C'était une horreur. Quand je suis revenu, je me suis dit, c'est trop tard, je sais, mais je vais quand même aller m'acheter une paire de chaussures de marche. Et depuis, je marche et j'ai plus d'ampoules. Mal équipé, on marche mal. Bon, certains bien équipés, ils marchent mal aussi. Et certains mal équipés, ils marchent bien. Avant de partir faire une randonnée, il faut donc passer chez Decathlon. Bon, ou autre. Pour s'équiper, avoir de bonnes chaussures pour marcher, avoir le bon sac à dos. Tu te souviens ? Avoir les bons vêtements aussi, la bonne casquette pour se protéger du soleil. Pour notre vie de chrétien et de chrétienne, c'est pareil. Il faut passer s'équiper au magasin du Seigneur et pas chez n'importe qui. La suite, ce que je vise là, c'est le verset 18 à 24. Et il se partage en deux moitiés, ces versets. La première partie, c'est n'allez pas au mauvais endroit pour vous équiper. Le mauvais endroit, je vous rappelle que ce que je disais tout à l'heure, c'est le contexte des Juifs. Donc là, il parle de l'ancienne alliance, des sacrifices, il rappelle l'Exode, et il dit, là où il faut s'approcher, c'est verset 22, approchez, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est là le bon magasin pour s'équiper. Et c'est quoi qu'on prend l'équipement? La liste de courses, c'est quoi? Des dizaines de milliers d'anges. On ne marche pas tout seul. Hein. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De Dieu qui juge de tous. Des esprits des justes portés à leur accomplissement. De Jésus, le médiateur d'une alliance neuve. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quand je suis découragé, quand je suis gagné par la fatigue, il faut que je passe en revue tous mes trésors. Je m'assieds au bord du chemin, j'ouvre mon sac, je dis « Allez, qu'est-ce que j'ai dans mon sac finalement ?» Peut-être j'ai oublié des bonnes choses que j'ai dans mon sac et je vais les prendre. « Ah, mais j'avais ça qui est tombé au fond de mon sac. J'avais le qu'est-ce que c'est écrit là ?»« J'avais le médiateur d'une alliance neuve, j'avais oublié. » Tellement j'ai marché, j'ai fini par l'oublier. « Ah, mais j'ai complètement oublié qu'il y avait les anges qui étaient autour de moi, qui veillent sur moi. Ah, c'est chouette, je me souviens de ça. Alors quand je suis fatigué, je peux me souvenir de tous les trésors que je suis allé acheter un jour dans le décathlon du ciel. Ah, mais je suis avec le Dieu qui juge de tous. Donc les gens qui me comprennent pas ou avec lesquels j'ai des problèmes ou qui ont une attitude qui me blesse, je sais que Dieu les voit, que Dieu lui comprend et comprend mes cris. Ça fait du bien, ça redonne des forces pour marcher. Ah mais devant moi, il y a des chrétiens qui marchent aussi, brillamment. Je suis entouré par des personnes, des premiers-nés inscrits dans le livre de Dieu. Dans les cieux. Il y a des chrétiennes qui agissent d'une manière si féconde dans ce monde. J'avais oublié de regarder un peu ce qu'ils ou elles font autour de moi. J'avais trop centré mon attention sur moi et maintenant je suis encouragé parce que j'ai regardé ce qu'il y avait au fond de mon sac. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien marcher? Je suis dur de vous dire de marcher alors qu'on est tous liquéfiés par... Mais ouais, mais c'est le texte, quoi. Donc on mange et on boit, surtout. D'ailleurs, on va boire. Deuxièmement, l'équipement. Bonne chaussure, je me souviens. Troisièmement, le guide. Suivre le guide ou l'écouter. Vous savez, c'est comme quand on est... maintenant, il y a des cartes, les cartes au 25 millième, qui sont sous forme informatique, qu'on peut avoir dans le téléphone. Moi, je me souviens encore de la bonne vieille époque où on avait les cartes papier 25 millième, 1 cm égale 250 mètres. Je m'en souviens encore. Ah oui, c'est précis, mais c'est 1 25 millième. Si tu veux, je t'explique après. Nous avons besoin du guide, versets 25 à 29. Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. Nous avons le guide avec nous qui nous parle. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, et là il parle de l'histoire des Juifs dans le désert, à bien plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui nous avertit depuis les cieux. Sa voix ébranla la terre. Et donc, l'exhortation est claire. Écoute ce que Dieu a à te dire si tu veux marcher ce chemin qui nous est ouvert, cette voie droite. Si tu veux bien marcher, écoute ce que le guide te dit. Tu es fatigué? Oui, mais n'oublie pas qui est avec toi. Ah ouais, mais j'ai quand même un guide formidable. Et en plus, il sait où il va. Moi, des fois, je suis perdu. Je ne reconnais pas le paysage, j'avoue. Je ne sais pas où on va. Mais lui, il sait où il va. Il n'est pas perdu. Donc, quand il me dit quelque chose, je le fais, même si j'ai plus de force. Parce que je sais qu'il dit vrai. Il me conduit vers la maison du Père, vers le royaume de Dieu. Alors, tu te sens perdu, je me sens perdu. Plonge tes regards dans les évangiles. C'est là que Dieu te parle. Laisse l'Esprit Saint t'envahir et te dire, te faire naître en toi des pensées qui viennent de lui. Laisse l'Esprit Saint éclairer ta lecture de la Bible, parole de Dieu. Laisse cette Bible te parler jusqu'au fond de ton cœur. C'est la voix de ton guide céleste qui s'adresse à toi pour te dire où aller, comment te diriger. Laisse la voix de Jésus résonner dans ton cœur quand tu lis les évangiles. Ravive ainsi ta foi. Accueille ton Dieu avec reconnaissance, avec foi, avec respect. Adore, loue ce Dieu qui te conduit jusqu'à la destination, qui se porte garant de ta sécurité. Le guide, lui, sait où il te mène. Tu peux lui faire confiance. Ce que nous retenons de ces textes, c'est d'écouter celui qui nous parle. Autrement dit, de lire la Bible, de la lire régulièrement, souvent et en conscience. Car ce Jésus, dont nous voyons le récit dans les évangiles, dont nous entendons les enseignements dans les évangiles, Jésus-Christ est le même hier, au moment des évangiles, aujourd'hui, et il le sera toujours. Alors ensuite, quatrième recette, la première c'était quoi? Manger et boire. Deuxième, l'équipement. Troisième, le guide. Quatrième, la démarche. Bien marcher. Il a fallu que je fasse des séances de kiné, de kinésithérapie, c'est ça qu'on dit, hein, parce que j'avais, quand j'étais ado, une mauvaise manière de marcher. Je marchais sur l'extérieur des pieds un peu de trop, ce qui m'a valu des entorses d'ailleurs aux deux jambes. Certains se souviennent d'entorses notoires. Les mauvaises habitudes doivent être corrigées. Certains auront tendance à marcher d'une manière ou d'une autre et ça peut fatiguer le corps anormalement. Ça peut nous faire risquer de tomber. Quand on est fatigué, les défauts reviennent plus facilement. On lève moins les pieds, on trébuche. On se tord une cheville parce qu'on marche mal. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On se laisse aller à la médiocrité. On oublie de lire la Bible, de s'en nourrir. On ne la connaît que de très loin. On l'entend dans le meilleur des cas quand on ne dort pas pendant la prédication, le dimanche. Là, il y a eu des coups de coude au moment où je dis ça. On oublie de demander pardon à Dieu aussi, c'est plus grave encore. On reste dans le mal qu'on a fait, on ne le règle pas, on y baigne et ça ne nous dérange même plus. Les mauvaises habitudes sont là. Peut-être parce qu'on est fatigué d'avoir toujours tenu, toujours essayé d'obéir. On ne se nourrit plus correctement et les problèmes augmentent. Notre texte nous fait un rappel des bonnes pratiques. Chapitre 13, versets 1 à 6, je suis sur ces versets-là. Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous êtes dans un corps. Et puis ça continue jusqu'au verset 6. Nous avons sans arrêt besoin du rappel des bonnes manières. Nous avons sans arrêt besoin de surveiller nos habitudes, de ne pas laisser de mauvaises habitudes s'installer. Nous devons être vigilants sur nous-mêmes. C'est facile, quand quelqu'un marche devant vous, de lui dire « Dis donc, t'as les pieds en dedans, là !» Alors que soit on les a aussi, peut-être même plus. Jésus a exprimé ça avec une autre image, hein, c'est la paille et la poutre. On voit plus facilement les défauts des autres. Je ne vais pas raconter la parabole parce que c'est un tout autre contexte. On voit plus facilement les défauts des autres que les siens. Veillons sur notre propre manière de marcher, de vivre, sur nos propres habitudes. Évacuons les mauvaises habitudes, remplaçons-les par des bonnes. Quand nous sommes énervés, frustrés, et on l'est, ça peut arriver bien sûr, ne laissons pas de mauvaises habitudes s'installer. Remémorons-nous les bonnes pratiques chrétiennes. Regardons de nouveau la notice technique. Combien de fois, alors qu'on a des tas de nouvelles installations dans le bâtiment, on a dû regarder la notice pour comprendre comment la sono marche, comment l'ascenseur marche, comment on regarde la notice. Combien de fois, lorsque moi j'écris un texte, je vais voir le dictionnaire pour être bien sûr d'utiliser un mot comme il le faut et de l'écrire comme il le faut. Combien de fois, lorsque je suis devant la machine à laver, je regarde la notice, c'est trop compliqué. On a besoin de regarder la notice régulièrement. Pourquoi on ne le fait pas dans nos vies spirituelles? Bien sûr qu'on doit le faire aussi. La notice. Certes, la notice est un peu épaisse, mais page après page, on a vraiment du concret, des choses faciles. Regardez ici, que l'affection fraternelle demeure. Ou alors, un peu plus loin, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est des choses simples, on peut les mettre en pratique. On a tous de mauvais penchants. Par exemple, l'amour de l'argent ou l'attirance vers la débauche, c'est aussi évoqué, ou ce genre de choses. On a tous à lutter dans nos vies contre ce genre de choses. Alors remémorons-nous les bonnes pratiques, relisons la notice pour nos vies que le Seigneur nous donne. Donc voilà ce que le Seigneur nous demande. Bien marcher, prendre de bonnes habitudes, les garder, écouter, regarder la notice et la mettre en pratique. Avoir une belle manière de marcher qui ne nous met pas en danger et qui nous permet de ne pas trop nous fatiguer, d'aller loin. Que le Seigneur nous conduise, nous bénisse dans notre vie de tous les jours. Dans une vie où chaque pas doit être travaillé, éventuellement corrigé. Et puis la dernière recommandation, c'est de faire attention. Chapitre 13, de nouveau, verset 7. C'est là que nous avons notre texte. Enfin, j'y arrive. En fait, je ne suis pas loin de la fin non plus du texte. Nous arrivons, chapitre 13 est le dernier de l'épître. Nous ne sommes pas les premiers à marcher sur ce chemin de la vie chrétienne, à marcher sur de bonnes pistes. Nous avons des prédécesseurs, nous avons des gens qui nous ont conduits et qui ont laissé un exemple. Ce que Jésus a été pour nos prédécesseurs, pour ceux qui nous conduisent ou qui nous ont conduits, il l'est pour nous et il le sera pour ceux qui nous font suite. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'auteur de ce livre, de la lettre aux Hébreux, donne ici un long développement comparant le culte juif à la foi chrétienne. Et il dit « Attention !» Verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers à votre foi. » Il est bien, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Et là, de nouveau, je vous le rappelle, il parle des observances de l'ancienne alliance, de la religion juive. Aujourd'hui, bien des éléments de notre culture pourraient nous aussi nous éloigner de notre foi. L'individualisme, par exemple, la recherche de la satisfaction personnelle, sans être une mauvaise chose en soi, cela peut nous éloigner de notre foi. Le matérialisme, je l'ai cité tout à l'heure, l'amour de l'argent, on a énormément de publicité, de besoins qu'on essaye de faire naître en nous pour ensuite, évidemment, avoir le plaisir de les satisfaire. Alors restons à l'écoute de Jésus. Faisons attention à tout enseignement, toute pression psychologique qui viendrait nous distraire de la simplicité de notre foi en Jésus-Christ. Étonnamment, les enseignements de Jésus, quand nous avons relu l'évangile de Matthieu cette année, moi je suis admiratif, j'avais, bien sûr, on a tous lu l'évangile de Matthieu, je pense, dans notre vie, mais là, de l'étudier, ça m'a fait de nouveau admirer la pédagogie de Jésus, l'art de rédaction de Matthieu, et cela me fait dire aujourd'hui, mais les enseignements de Jésus sont inoxydables, ils sont imputrescibles, ils sont indémodables. Ils sont permanents, toujours pertinents, les enseignements de Jésus. Alors Jésus-Christ est le même, Oui, ça vaut la peine de continuer de l'écouter et de ne pas se laisser distraire par quelqu'un qui viendrait y ajouter quelque chose. Les enseignements de Jésus sont doux. Prenez mon joug, a dit Jésus en utilisant une image agricole. Prenez mon joug car il est doux. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et personne depuis lui n'a pu prétendre à le remplacer ou à lui faire suite. Personne n'a fait mieux que Jésus pour le pardon des péchés. Jésus-Christ est le même, il pardonne toujours aujourd'hui. Revenons, sans nous lasser, à la parole de Jésus, à la Bible qui contient ces paroles si précieuses, et prenons garde, soyons toujours vigilants de ne pas nous laisser influencer par des choses qui nous éloigneraient de cette simplicité que le Seigneur nous donne de vivre avec lui dans une relation filiale, belle et éternelle. Alors je conclus. Tu es fatigué de marcher, mon frère, ma sœur ? Tu en as marre ? Alors bois un coup. Bois un coup de la grâce de Dieu. Raffermis l'équipement, resserre les bretelles du sac. Resserre tes lacets de chaussures. Rajuste ta casquette. Raffermis l'équipement de l'Évangile. Écoute un peu plus le guide divin. Fais attention à ce qu'il te dit. Toujours, et toujours une oreille vers lui. Prends du temps avec lui. Prends le temps d'écouter ce qu'il te dit. Révise tes habitudes de marche. Fais attention, peut-être tu as les pieds un peu en dedans comme ça. Fais attention à tes habitudes. Peut-être c'est tes mauvaises habitudes qui te fatiguent. Ta mauvaise démarche, elle pompe de l'énergie pour rien. Et puis fais attention aux fausses pistes. Ne te laisse pas avoir. Peut-être si tu es découragé, c'est parce qu'on t'a fait miroiter des choses, parce qu'on t'a promis des choses, ou au contraire, parce qu'on t'a fait peur, je ne sais quoi. Reviens à l'Évangile, tout simple, celui que te donne Jésus. Alors oui, n'oublie pas en plus, Jésus, c'est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Prions. Nous te remercions, Seigneur, de bénir ce temps de lecture que nous avons de ta parole, de faire porter en nos cœurs la semence de ta grâce. Amen.